Chapitre 15 et 16. Monsieur n'a plus besoin de rien ? Non, Mélanie. Alors, bonsoir, monsieur. André tira sa montre, constata que 6 heures sonnaient à peine et il pensa « Mélanie va ce soir au concert avec son mari et elle m'a forcé une fois de plus à dîner 20 minutes d'avance. » Il arpenta son petit logement, puis il se promena sur la terrasse. « Tiens, le couchant est beau, se dit-il. » Et il contempla avec un peu de mélancolie, dans l'horizon borné là-bas, la rouge descente des nuages derrière les maisons dont l'arête des toits s'accusait en noir. Il alluma une cigarette et, penché sur le balcon, il regarda sous ses pieds la rue toute mouillée par une averse et teintée par le ciel qui éclairait de lueurs roses des files entières de croisées et de murs où se miraient en courant dans l'eau des ruisseaux grossis. Ça et là, quelques passants barbotaient, enfonçant des ombres noires presque droites dans la chaussée rose, tandis que sur le trottoir, quelques parapluies encore ouverts mettaient des ronds de couleur sombre, emperlés de gouttes claires au bord, cachant le chapeau et le cou qu'ils abritaient, s'avançant sur des corps qui marchaient sans tête. Soudain, André se prit à rire. Il se rappelait que dans sa souveraine sottise, Mélanie, vantant le matin même la forme tentante de ses appas, s'était amèrement plainte à lui que son époux ne la sollicita pas davantage. Ce souvenir le mit en gaieté. Il rentra dans sa chambre et une convoitise de plaisir l'agita, un désir d'aller s'amuser quelque part, dans un concert, dans un bal, n'importe où, bientôt suivi d'une sorte de désenchantement parce que, seul, sans l'accompagner qu'un camarade, il se sentait incapable de les satisfaire. « Ah, si cet animal de Cyprien n'était pas collé, je serais allé le chercher, » pensa-t-il. « Nous aurions flâné tous les deux dans un endroit quelconque. » Les choses les plus médiocres m'eussent semblé charmantes dans la disposition d'esprit où je me trouve. Enfin, il ne faut plus songer. Et cependant, comme pour tenter au moins de faire naître artificiellement chez lui le plaisir qu'il savait ne pouvoir naturellement éclore qu'en société et au dehors, il se livra devant sa bibliothèque à la recherche d'un volume qui fût à l'unisson de ses pensées. De même que pendant la période de la crise juponnière où il demandait à des livres l'apaisement de ses ennuis, il n'en découvrit point. La littérature s'étant peu, jusqu'à ce jour, occupée de ces sensations tristes ou joyeuses qui s'éveillent chez l'homme dans la solitude sans cause bien définie souvent. Un coup de sonnette retentit. « Oh, que diable peut venir ?» se dit-il en allant ouvrir avec empressement. Un monsieur demandait une dame. « Ah non, ce n'est pas ici !» répondit André, qui referma brusquement la porte. « C'est étonnant, il vient toujours une personne qui se trompe sonner chez vous, quand, s'affligeant, on serait si heureux de voir arriver un ami, » murmura-t-il, en allumant sa lampe que Mélanie avait posée toute montée sur le bureau avant de partir. Il alla s'asseoir dans le fauteuil en face de la croisée, et il regarda la pièce où les rayons épars de la lampe perdaient, en se fondant dans la sombreur des coins, l'orange de leur lueur. Puis il contempla, bâillant et s'étirant les bras, la fenêtre demeurée dans l'ombre, qui coupait dans la nuit tombante un grand carré pâle et au travers des fleurs blanches des petits rideaux, le ciel tamisé par la mousseline lui apparut, violâtre, immobile, battu derrière la vitre par la corde du store qui oscillait au vent comme une pendule, comme un pendule. Mais ses yeux ne virent bientôt plus rien. Quelques ennuis d'argent dernièrement ressentis lui revinrent en mémoire et l'amenèrent à penser combien la vie serait clémente s'il devenait subitement riche. Alors il se lança sur cette piste dévalant au grand trot dans le rêve. Il bâtissait des châteaux dans l'Espagne, souriant aux féeries qui se jouaient dans sa cervelle. À l'occasion d'un fauteuil qu'il avait donné à réparer la veille, des projets d'ameublement le hantèrent, et il se figurait les bibelots qu'il achèterait, les toiles rares. Il pensait aussi à une cave splendide et à une femme charmante qui rayonnerait doucement au milieu de ses élégances. Il était, dans ses transports d'imagination, animé d'une bienfaisante indulgence. « Ma foi, je garderai Mélanie, se dit-il, et je prendrai son mari en qualité de concierge ou de valet de chambre. Ce qui me contrarie, par exemple, c'est qu'il ne puisse pas me servir aussi de jardinier, car il m'en faudra un, et ce n'est guère agréable d'introduire chez soi de nouvelles personnes. » Soudain, il reçut comme un heurt dans l'estomac, la sonnette tintait. Il se redressa, très ahuri, n'ayant pas encore bien repris son équilibre, pareil aux gens que l'on réveille brutalement d'un somme. « Quel imbécile je suis avec toutes mes rêveries !» se dit-il en prenant la lampe. Il traversa la salle à manger, ouvrit la porte et il béa devant une femme. Malgré la voilette qui lui couvrait et les yeux et le nez, il reconnut Berthe. « C'est toi ?» dit-il, suffoqué. Et après une minute de silence, où ils demeurèrent l'un devant l'autre, haletant, sans pouvoir parler, machinalement, André alla déposer sur la table de la salle à manger la lampe que sa main avait peine à tenir droite. « Entre !» murmura-t-il, fermant la porte du palier qui était restée tout contre. Elle marcha devant lui, hésitant devant le noir du petit salon, et pendant une seconde que dura le trajet d'une pièce dans l'autre, derrière le pas indécis de Berthe, une honte rapide de son émotion, de son trouble, prit André, une honte d'homme un peu ivre, qui, voulant cacher son état aux autres, tâcherait de ne pas parler, de se montrer calme. Il désigna de la main à sa femme le fauteuil, près de la cheminée, et plaçant la lampe qu'il rapportait sur son bureau, il assujettit le verre de ses doigts tremblants, soupirant. « Oh, comme elle fume !» Puis instinctivement, il se renversa sur le canapé, un peu en arrière pour sortir du cercle de lumière tracé par l'abat-jour, n'osant dévisager sa femme, sentant son embarras, son angoisse d'accroître de toute la gêne de Berthe qui remuait, sans lever les yeux avec sa main, la chaînette de son en tout cas. « Je ne pensais pas venir, » dit-elle très bas. « Ah, après tout ce qui s'est passé, il a fallu des circonstances pour que je sois ici. » « Enfin, tu verras, c'est pour affaire. Du reste, j'ai apporté toutes les pièces, » et elle fouilla fébrilement dans sa robe, debout, cherchant avec précipitation, plusieurs fois dans la même poche, avant que d'amener un rouleau de papier retenu par du fil blanc. Elle le tendit à André, qui le posa sur le divan sans l'ouvrir. Berthe se rassit, et laissant l'en tout cas tranquille, elle contempla machinalement la pointe de sa main gantée qu'elle poussa légèrement en avant sur son genou. Les yeux d'André suivirent ce mouvement et se fixèrent sur les doigts qui remuaient un peu. Ils restèrent silencieux, les regards fixés sur cette main gantée, puis André, respirant plus fort, reprit le rouleau, le tourna et le retourna, et d'instinct, il l'abandonna, voyant qu'il le mollissait et que l'empreinte jaune de son pouce, tachée par la fumée des cigarettes, marquait près du fil sur le papier blanc. « Tu es malade ?» fit-il doucement, et il chercha à distinguer les traits de Berthe sous la voilette. Elle lui parut plus pâle que jadis, avec des yeux plus grands. Elle eut un sourire un peu dolent et répondit d'une voix tremblée. Oui, je ne suis pas bien portante depuis longtemps déjà, mais je vais plutôt mieux. Le médecin assure à mon oncle que je n'ai pas de lésions et que je me remettrai avec de la chaleur et du beau temps. Et il va bien, ton oncle? Demanda André avec un peu d'hésitation. Elle inclina légèrement la tête. À bout de parole, André ressaisit les papiers et il essaya de défaire le nœud qui les liait. Il s'écorna les ongles sans réussir. Berthe se déganta et, un peu rouge, détortilla le fil. Ah, ce sont des devis et un plan. Et il se plongea le nez dans les pièces qu'il ne put parvenir à lire. Les lettres et les chiffres lui dansaient devant les yeux, et le plan qu'il tenta d'examiner lui troubla la vue avec ses larges places qui lui semblèrent se soulever et déborder des liserés de couleurs qui les ourlaient. C'est très bien, dit-il. Et après un assez long intervalle, il poursuivit, bredouillant un peu. C'est Desablots qui t'a engagé à acheter cette maison? Du reste, ça se conçoit. Et il ajouta avec une certaine acrimonie. Il a toujours aimé à profiter de la campagne des autres. Mais elle défendit son oncle. Non, il n'était ni un homme intéressé, ni un égoïste, comme André le croyait. Et elle ne pouvait accuser ni sa sollicitude, ni sa tendresse. Lui et sa femme la traitaient comme leur propre fille, sa tante surtout, et elle continuait à débiter l'éloge de Desablots qu'André écoutait, l'air peu convaincu et la mine pincée. Néanmoins, l'attitude décidée de Berthe l'intimida. Il n'osa plus attaquer sa famille de front et lentement il rôda autour des Desablots, hasardant des questions, préparant des amorces, s'efforçant de confesser sa femme, de lui faire dire les froissements quotidiens, les souffrances journalières d'une vie en commun chez d'intolérables gens. Elle rougissait un peu, se défendait d'accuser son oncle, et harcelée, pressée, convenait cependant, entre deux louanges, qu'elle la vivait pour toute sa amertume à ses aveux, les petites faiblesses de cet homme, oui, son caractère enflé, pointu, ses idées qui se rétrécissaient sur chaque chose avec l'âge. Mais c'est égal, c'est un brave cœur, dit-elle. Quand on est seul, écarté par tout le monde, quand toutes vos anciennes amies vous tournent le dos, c'est bon de trouver des parents qui vous accueillent à bras ouverts et qui vous aiment. André hocha la tête. N'empêche, dit-il, que malgré tout son bon cœur, ton oncle m'a, et sans aucun motif, toujours exécré. Non, tu as tort de croire cela, répondit-elle vivement. C'était ton métier qui l'exécrait, mais toi, tu étais en dehors. Et elle se tut, songeant tout de même à la haine de Desablots pour ce qu'il appelait le bohème des lettres. Se rappelant ses fureurs contre un employé de son bureau qui s'occupait de journalisme et qui l'aurait fait renvoyer, sous prétexte d'inexactitude, sans ses supplications à elle qui le défendait, bien qu'elle ne l'eût jamais vu, croyant vaguement qu'elle réparait un peu ainsi ses torts envers André, s'intéressant à cet employé par ce seul motif qu'il se mêlait, comme son mari, d'écrire. Enfin, dit André, pour ce qui regarde la maison du Viroflay, je n'en ai refusé l'achat que dans ton intérêt. D'ailleurs, je tiens si peu à te faire de la peine et à te désobliger ton oncle que, si tu le désires, bon, je vais te signer les pièces nécessaires tout de suite. Elle le remercia avec un accent attendri qui le remua. L'émotion qui s'était comme relâchée, tandis que sa rancune contre les Desablots se ranimait, le reconquit et il se promena pour cacher son trouble. Il lui était presque impossible de parler maintenant. Sa gorge était sans salive, sèche, et la pomme d'Adam allait et revenait fiévreusement dans le cou. Il oublia Desablots, sa famille, tout, car la voix de sa femme l'avait assailli aux entrailles, et l'intimité des rares heures charmantes de son ménage renaissait. Il revit Berthe après le mariage, se laissant embrasser au bas de la raie sur les cheveux. Il la revit à table, roulant une boulette de mie de pain entre ses doigts au dessert. Il la revit déshabillée, retenant d'une main sa chemise sur sa gorge, en montant dans le lit, et un grand amollissement lui vint. Une défaillance de toute fermeté, de toute alerte. Il eût voulu ne pas remuer, ne pas ouvrir la bouche, de crainte que la lente torpeur qui l'envahissait ne cessât. Puis ce fut plus fort que lui, il leva les yeux sur Berthe. Il était maintenant en face d'elle, et le rayon de la lampe la frappait au visage, allumant les grains de jais de sa voilette, éclairant sous le tulle la figure en plein. Il eut une brève secousse. Les regards tristes, le sourire douloureux de sa femme le poignèrent. Des larmes lui emplirent les yeux. Il fit un pas vers Berthe et, suffoqué, la serra dans ses bras, la baisant éperdue sur le front, les oreilles, les joues, balbutiant. « Bah, ça ne fait rien, ça ne fait rien. » Tandis que confusément, la tête sur l'épaule d'André, elle étouffait, geignant très bas comme une enfant qui pleure, la bouche dans son oreiller. « Mon pauvre petit chat, » fit-il, oubliant du coup les gracieusetés un peu froides, les façons mesurées, jadis adoptées dans son ménage, parlant à sa femme calidement ainsi qu'à une maîtresse. « Voyons, il ne faut pas pleurer. Dis, ris, ris un peu, ma petite Berthe. » Et il l'écarta, lui mettant les mains sur les épaules, la contemplant avidement, toute rose, les yeux gonflés, souriante dans ses larmes, balbutiant des mots sans suite, des paroles d'excuse et de pardon. Et il lui baisait la bouche, la suppliant de se taire, affirmant que lui aussi avait eu des torts. « Ma pauvre mignonne, » reprit-il, saisi d'un accès de gaieté nerveuse, parcourant la pièce, se frottant les mains, « va ! Toutes nos bêtes de brouille sont terminées. Essuie tes yeux, ma chérie, tiens, veux-tu de l'eau fraîche ?» Et il courut jusqu'au cabinet de toilette, versa dans sa précipitation la moitié du pot à l'eau sur le parquet, apporta la cuvette, la tint pendant que Berthe se bassinait les yeux, la posa enfin sur le tapis, parce qu'elle était en terre de fer, très lourde, tandis que, toute penchée en avant, sa femme se mirait dans la glace, fouageant avec ses doigts dans les frisettes de ses cheveux qui s'étaient chiffonnés sur le front, appuyant sur ses paupières enflammées avec la paume de ses mains. André lui enveloppa la taille et la força à s'asseoir près de lui sur le divan. Là, il la colla plus fort, humant dans son cou l'odeur de la chair moite, remuant avec la pointe de ses moustaches les boucles d'oreilles. Elle ne soufflait mot, mais elle le regardait en dessous, et son corsage soulevé semblait aller plus vite. André s'empara de ses doigts autour desquels il fit lentement tourner les bagues. « Enfin, te voilà donc, » dit-il en la regardant tout émue dans les yeux. Elle sourit un peu. « Ah, oh, je t'ai bien souvent attendu, » reprit-il, emporté par un élan, parlant pour se soulager, mentant sans même en avoir conscience. Elle lui pressa la main, et avec une expansion qui le surprit, et elle finit par avouer qu'elle n'était pas heureuse, mais que jamais cependant elle n'aurait osé venir s'il n'y avait été en quelque sorte forcée par les instances de Cyprien. « Ah, oh, tu as vu Cyprien ? » fit-il. « Oui, il est venu un matin, pendant que mon oncle était à son bureau et que ma tante était au marché. » Et elle laissa entendre que le peintre lui avait affirmé qu'André serait heureux de la revoir. « C'est un garçon bien intelligent que Cyprien, » dit André, en s'éloignant un peu de sa femme, très rouge, honteux que le peintre eût montré à Berthe combien il la désirait. Oui, poursuivit-il d'un ton qu'il essaya de rendre dégagé, Cyprien me parlait souvent de toi, et comme il comprenait que la pensée de te savoir malheureuse ou malade me chagrinait, il en aura conclu. Il s'arrêta. Il a bien fait, du reste, pensa-t-il vivement, en se rapprochant et en embrassant sa femme, qui était devenue à son tour très rouge. Sans lui, tu ne serais peut-être pas ainsi près de moi. Méchante, va, qui n'aurait pas eu sans cela l'idée de venir me voir. D'abord, je ne savais pas si je te trouverais seule, et puis non, ce n'était pas possible. Et elle regarda autour d'elle, réveillée, ayant peine à croire que c'était elle qui était là, assise, près de son mari, sur un divan. « J'ai toujours vécu seule, » dit André avec aplomb. « Mais je ne sais vraiment pas ce que cette lampe a ce soir. » Et il se leva pour la remonter. « Ah, les hommes sont tout de même à plaindre quand ils vivent isolés, » soupira-t-il. Il jugea utile de se rendre intéressant, racontant que Mélanie le grugeait sans mesure, cherchant la poussière qu'il ramassait difficilement avec son doigt sur les meubles pour convaincre sa femme. « Voilà comme je suis servi, » dit-il en hochant la tête. « Ton ménage semble pourtant bien tenu, » répondit Berthe, qui regarda de tous les côtés la pièce. « Oh, mais tu as acheté beaucoup de meubles !» Il lui proposa de visiter le logement, et il supprima l'abat-jour de la lampe. « Je ne m'étonne pas si elle charbonne ainsi, la mèche est mal coupée. Attends, je vais te l'arranger tout à l'heure. » Et Berthe contempla les tableaux, souriant à ce qu'elle connaissait, s'étonnant devant les autres. La chimère du Japon l'épouvanta. « Oh, l'horreur !» fit-elle. Et elle passa dans la chambre à coucher, examinant le lit blanc, les meubles en bois de rose, touchant les clés dont les poignées dorées lui plaisaient surtout. « Tu es bien logé, » murmura-t-elle en entrant dans le cabinet de toilette. Sans motif, sans qu'aucune filiation d'idées se fût produite, André revit tout à coup la chambre à coucher de son ancien ménage, l'affront qu'il avait subi, et bien que sa colère fût depuis longtemps épuisée, mu par un sentiment de rancune puérile, par la pensée d'une mesquine vengeance, née d'un souvenir gardé sans motif plutôt qu'un autre de son ancienne liaison, il entoura la taille de Berthe comme il avait jadis entouré celle de Jeanne, et il embrassa sa femme devant la glace, au-dessus du pot à l'eau, se croyant peut-être homme fort, sceptique, effaçant à coup sûr un reste d'offense, en égalant ainsi sa femme à une maîtresse, en les rapprochant, en les mettant sur le même niveau, sur le même plan. Mais Berthe se dégagea et passa avec autorité dans la cuisine, se sentant maintenant chez elle, et elle contempla les culs étincelants des casseroles, brillantes comme des soleils, le bonnet de tulle noir à bris de vert pomme pendant sur l'ocre des murs, disant « Mais c'est très propre !»« Tiens, donne-moi les ciseaux à lampe, » reprit-elle, « je vais couper la mèche. » Ils les cherchèrent vainement. Dans cette pièce, grande comme un mouchoir, et qu'elle emplissait de ses jupes, ils se pressèrent l'un contre l'autre devant le buffet, découvrant des mèches à lampe et des gousses d'ail pêle-mêle dans une tasse, des croutons de pain durs sur un plat, du beurre dans un bol d'eau, du sel gris et de la farine dans des pots à confiture, enfin près d'un pilon de bois et d'une râpe contenant encore des copeaux de gruyère, une petite bouteille noire avec cette étiquette « L'arôme des potages, manufacture d'oignons brûlés à Romainville ». À force de chercher, ils trouvèrent pourtant dans un tiroir, où leurs doigts se mêlaient et où les bagues de Berthe pétillaient dans l'ombre plus vive, d'infectes mouchettes trempées d'huile au milieu d'un paquet déficelé de laurier et de thym. Tiens, dit André, ravi de l'excessive malpropreté de ces mouchettes. Avais-je raison d'accuser ma bonne? Tu peux voir par toi-même si elle est sale. Berthe répondit pas, elle arrangea prestement la lampe. Voilà qui est fait, dit-elle, et elle retourna dans le cabinet de toilette pour se laver les mains. Alors, tandis qu'elle se frottait lentement les doigts de mousse, André, debout derrière elle, suivit le mouvement des bras dont le va-et-vient faisait onder l'étoffe de la robe dans le dos et se bourrait en un léger frisson le long des hanches, et de grands désirs lui vinrent. Depuis le départ de Jeanne, ses amours étaient coûteuses, et avec cela privées de cet appétit qui rend suffisantes les plus médiocres des voluptés et des pâtures. Un désir bête l'occupa de savoir si rien n'était changé chez Berthe. Puis l'existence menée après leur rupture, la liaison renouée avec Jeanne l'avait comme modifiée. Il était devenu moins timide, moins respectueux, plus brave. Il était enfin chez lui, dans son logement de garçon, et non plus chez eux, dans son ménage. Et des fumées de jeunesse lui remontèrent, des souvenirs, des paillardises, des anciens tête-à-tête qui lui artisèrent encore les tenses. Il ne vit plus bien clair. Il alla simplement sans raisonner vers Berthe comme vers une femme attirante, comme vers une bonne fortune tombée après une longue abstinence par hasard chez lui. Il était d'ailleurs dans un terrible état d'énervement. Les secousses de la soirée l'avaient brisé. Il éprouvait une fatigue énorme, une courbature générale, et sa cervelle lui semblait flotter dans le vide. Loin de le soulager, les larmes d'abord retenues puis rapidement taries avaient encore augmenté cet indicible malaise qui devait forcément aboutir à la détente charnelle. Il s'étira les doigts qui craquèrent, pris d'évanouissement, avoyant la subite récurrence sous la chemise de sa femme d'une mignonne tache fauve arrondie comme une pastille entre les deux seins. Énervée elle aussi, et en dépit de la froideur de ses sens, encore accentuée par l'habitude depuis longtemps acceptée des jeûnes, elle eut un brusque réveil, et elle se tendit, les joues en feu, les yeux noyés, laissant choir la serviette avec laquelle elle s'essuyait les doigts dans la cuvette à moitié pleine. Elle sourit à son mari dans la glace, et courbée en deux, les reins un peu hauts, le dos remué jusqu'à la nuque, elle tordit le linge. Le sourire où la surdent mettait dans sa bouche un point de lumière avancé sur la ligne des dents affola André. Il se jeta sur elle et la baisa lentement sur les yeux qui battirent, lui chatouillant les lèvres avec leurs cils. Il l'étreignit et l'emmena, lassé à lui, dans la chambre, oubliant volontairement la lumière dans le cabinet. Berthe s'affaissa sur le lit, inerte, un bras replié sur la figure, tandis que le bruit de ses jupes longuement froissées s'entendait seul avec le souffle haletant d'André. Oh, c'est vilain, dit-elle tout bas. Et André, un peu étonné maintenant que sa surexcitation avait cessé, se demandait si, dans l'intérêt de son futur ménage, il n'avait pas commis une irréparable faute. Une certaine lueur qui fila dans les yeux de sa femme l'inquiéta. Puis il se fit la remarque que Berthe avait le linge plus élégant et plus parfumé que jadis, et il eut peur qu'elle ne se fût ainsi parée pour le séduire. Un peu embarrassé, ils revinrent s'asseoir dans le petit salon, et ils se taisaient, abîmés chacun dans ses réflexions. Elle, malgré les déboires renouvelés de ses sens, satisfaite d'avoir goûté un fruit défendu, d'avoir accompli dans une chambre de garçon une escapade rêvée autrefois dans son ménage, et honnêtement réalisée maintenant, sans honte et sans risque, heureuse de secouer le joug de son oncle, de quitter de nouveau son existence de jeune fille, de reprendre sa liberté, de rentrer toute puissante chez elle, ressentant cette joie que les gens casaniers éprouvent à retrouver leur chez-soi après de longues haltes dans les hôtels et dans les garnis. Lui, très perplexe, se reprochant d'être toujours le même, sans défense devant une femme, n'augurant rien de bon de cette facilité avec laquelle Berthe s'était laissée vaincre, se répétant « Oh, je suis à sa merci !» puis se consolant par la perspective de quitter cette odieuse existence de garçon, regorgeant de cris juponnières et de carottes de bonne, de se réinstaller dans un ménage sérieusement organisé, de vivre peut-être enfin tranquille. « Veux-tu que nous préparions une tasse de thé ?» fit-il pour dire quelque chose. Elle entendit le son de ses paroles sans en comprendre le sens. Elle s'éveilla de ses réflexions et regarda sa montre. « Oh ! 10 heures ! Mon oncle ne doit pas savoir ce que je suis devenu. « Oh, comme je suis faite !» murmura-t-elle. Et pendant qu'elle réparait, de son mieux devant la glace, le désordre de sa coiffure et de sa robe, André, tout en enfilant ses bottines pour la reconduire, parvint à se convaincre qu'il avait sagement agi. « C'est peut-être la seule fois que je me sois conduit comme il le fallait avec ma femme. Oui, avoir plus de laisser-aller, moins de retenue et plus d'abandon, être enfant, gentil, bon garçon comme je l'ai été avec Jeanne, voilà » conclut-il en frappant le plancher de ses semelles pour faire mieux glisser la chaussette dans la bottine. Berthe était prête. Il l'embrassa, ils descendirent dans la rue. Recueilli, muet, obsédé par les mêmes préoccupations, soucieux et contents à la fois, songeant à toute leur vie ratée qu'ils allaient reprendre, appréhendant que, malgré l'expérience qu'ils avaient acquise, ils ne la gâchassent et à jamais, cette fois encore. Et ils marchèrent, résignés, chacun se promettant pour avoir la paix de s'effacer devant l'autre, et se réservant de se montrer néanmoins dans certains cas quand il le jugerait convenable, chacun supputant déjà, en serrant tendrement le bras joint au sien, les indulgences qu'il devrait avoir, les défauts qu'il devrait s'engager mentalement à passer à l'autre. Chapitre 16. Une fois par semaine, le mardi, André et Cyprien se réunissaient dans un café vers les 4 heures. Ils furent exacts au rendez-vous, le premier mois, puis tantôt l'un, tantôt l'autre manqua. Celui qui attendait s'irrita devant son apéritif, et fatalement il attribua le manque de parole de son ami André à Amélie et Cyprien à Bert. Chacun prit la femme de son camarade en grippe. Du reste, une certaine froideur s'était glissée dans leur relation. André arrivait bien tout d'abord à l'heure, mais il partait presque aussitôt, alléguant de mystérieux prétextes, d'inévitables courses qui faisaient hausser les épaules du peintre, plus à l'aise, moins réprimé, dans son intérieur de concubin, qu'André dans son ménage approuvé dans sa vie bourgeoise. Du dépit et sans doute même un peu d'envie résultèrent pour André de cette supériorité de Cyprien, et un peu de pitié, un peu d'aigreur, vinrent au peintre de l'embarras d'André de sa hâte continuelle à déguerpir. Ils finirent bientôt par ne plus se rien dire, lorsqu'un hasard les mettait dans la rue en face. André ne voulait à aucun prix retourner chez son camarade, sentant une certaine gêne, une certaine honte à revoir Mélie, qui s'était forcément immiscée dans ses affaires. Et pour rien au monde, Cyprien n'eût mis les pieds chez André, se rappelant le mauvais accueil de Berthe après son mariage, pensant que, malgré tous les services qu'il avait rendus, il serait de nouveau, en sa qualité de camarade du mari, privé de nourriture à table et poliment jeté dehors, comme jadis, après le repas. Un ou deux mois s'écoulèrent sans qu'ils se rencontrassent. Un jour pourtant, à une messe d'enterrement, Ils s'aperçurent dans l'église, au travers des personnes plantées comme des piquets entre deux rangs de chaises, et une fois les compliments de condoléances achevés, ils laissèrent le corbillard s'acheminer en ballottant vers le cimetière, et ils se promenèrent dans une rue de traverse, s'entretenant d'abord des qualités et des vices du défunt qu'ils avaient autrefois connu, s'apitoyant ainsi qu'ils sied sur le malheur de ce qui reste. Puis, changeant le cours de la conversation, Cyprien dit à André : « Eh bien, depuis que je ne t'ai vu, tu dois être établi dans ton nouveau logement ?»« Oui, mes affaires sont presque rangées. » Et il ajouta, après une pause sans enthousiasme : « Je suis bien. » « La maisonnette est grande ?» demanda Cyprien. « Non, 5 pièces, mais elles sont commodément distribuées. C'est une vraie bicoque de petits merciers retirés des mauvaises affaires, des murs roses, des volets couleur de teint anglaise avec un cœur découpé en haut dans le bois, une porte avec des vitres de couleur donnant sur le jardin. Et tu vois ça d'ici ?» Oui, avec cela, autour d'une tonnelle, non loin d'une pompe à roues, les sempiternelles plates-bandes de géranium et les non moins sempiternelles corbeilles de roses, séparées par une ligne de buis, des allées saupoudrées de cailloux de rivière, un tonneau au fond du jardin avec une grenouille houillée regardant le ciel, dans un coin, la cabane nécessaire cachée par un lilas qui ne s'épanouit jamais, enfin, contre la dite cabane, un monticule formé par les détritus des feuilles et des branches mortes et par les tessons des pots de fleurs cassés, le tout surmonté par une ficelle sur laquelle voltige un tablier de cuisine et une paire de bas. Si je vois ça, mais je te dessinerai, ressemblance garantie, ta maison sans l'avoir vue. Oh oui, oui, va, blague tant qu'il te plaira, fit André. Tu n'empêcheras pas que ce soit tout de même agréable d'être à Paris, perdu dans un petit faubourg, sans voisins, sans concierge, loin de la foule et loin du bruit. Oh, ça c'est le rêve qui vient aux gens épuisés après la trentaine, soupira Cyprien. Je l'ai eu comme tous les autres, seulement j'ai deviné le mystère des existences vécues dans les banlieues. Je me suis vu ouvrant la fenêtre le matin, tapotant avec inquiétude sur mon baromètre, descendant sous un chapeau de paille en chemise, le dos barré par une bretelle pour tailler avec le sécateur mes plantes. Je me suis vu enfin le dimanche, les jambes pendant sur le talus des remparts, utilisant ma lorgnette de spectacle à contempler l'horizon, discutant pour la 100e fois avec ma femme qui ravaude en bâillant près de moi sur le nom du village que figure un petit pâté blanc là-bas, dans le ciel au loin. Cette vision de ma longue personne dans un maigre paysage m'a guéri de ces élans vers la nature parisienne que j'adore quand je m'y promène, mais que je prendrai jamais infailliblement en haine si je devais y habiter seulement pendant un terme. Mais d'ailleurs, je suis bien tranquille. Tu reviendras, apitoyé par l'ennui de ta femme, et lassé toi-même par l'isolement, demeurer à un 3e étage dans le centre de Paris comme moi. Le visage d'André se rembrunit. Il se rappelait les plaintes de Berthe, déplorant la rareté des provisions, le départ précipité des bonnes d'un quartier privé de bastringues et de troupes. Il eut peur que cette halte dans les tracas de sa vie ne fût point définitive, et il appréhenda de reprendre peu à peu, sous l'impulsion de sa femme, sa course longtemps interrompue au travers des salons et des bals. Maintenant que sa situation est nette, peut-être bien que Berthe ne serait pas fâchée de rentrer victorieuse dans ce monde qui l'a tenue à l'écart pendant des mois, songea-t-il. Dis donc, reprit Cyprien, qui devant la mine absorbée de son camarade jugea d'instinct qu'il serait bon de ne pas continuer ses théories sur la campagne. Dis donc, qu'est devenue ton ancienne bonne ? Qui ça, Mélanie ? Oui. Oh, je sais pas. Depuis le jour où Berthe, revenant chez moi, l'a congédiée, je n'ai plus de ses nouvelles. Oh, je suppose qu'elle a suivi sa vocation. et qu'elle a recommencé à pirater dans un nouveau ménage. Ah, ça bien. Et toi, que fais-tu? Moi, rien, je vivote entre Mélie et Barderouille. Je travaille aussi pour des entrepreneurs de papier peint. Je fais, entre autres besognes, des écossais. Tu sais, ces papiers qui ont des raies alternées et croisées, rouges et vertes, comme des culottes d'Highlander sous de certains châles. C'est pas trop mal payé, l'ouvrage abonde. Alors, les tableaux? Le peintre se frotte à la barbe de ses longs doigts. Les tableaux, peu, dit-il. C'est quelquefois bon de songer à ce qu'on ne fera jamais au lit le soir quand on ne dort pas. Oui, répondit après une pause André en soupirant. Quand il s'agit d'exécuter l'œuvre qu'on a conçue, va te faire fiche. Vois-tu, j'ai bien peur que nous n'ayons joué en art le rôle que joue en amour ces pauvres diables qui, après avoir longtemps désiré une femme, ne peuvent plus lorsqu'ils la tiennent. Les gens qui ratent le coche, dit Cyprien. Tiens, à propos, et la maison que tu devais acheter à Viroflay? Bon, elle a été vendue pendant que je discutais sur le prix d'achat avec ma femme. Ah, bien, mais ça n'a pas dû réjouir ce bon des Ablots, reprit-il en riant le peintre. Est-ce que tu le vois toujours? Encore. Ils restèrent sans parler, et les mains derrière le dos, ils arpentèrent le trottoir de long en large. Alors, tu es heureux, dit Cyprien. Oui, et toi? Oh, moi aussi. Alors, tant mieux. Cyprien se tut, puis après un silence, il reprit. C'est égal, dis donc. C'est cela qui dégote toutes les morales connues. Bien qu'elles bifurquent, les deux routes conduisent au même rond-point. Au fond, le concubinage et le mariage se valent, puisqu'ils nous ont, l'un et l'autre, débarrassés des préoccupations artistiques et des tristesses charnelles. Plus de talent, mais de la santé, quel rêve! André hocha la tête en se mouchant. « Bigre !» dit-il soudain, comptant sur ses doigts les coups qui s'égouttaient l'un à un d'en haut. « C'est midi qui sonne, je me sauve, car Berthe s'impatienterait. » Il serra la main de son ami qui murmura tout ricanant. « C'est pas mauvais d'être vidé comme nous le sommes, car maintenant que toutes les concessions sont faites, peut-être bien que l'éternelle bêtise de l'humanité voudra de nous et que, semblables à nos concitoyens, nous aurons ainsi que le droit de vivre, enfin respecté et stupide. Quel idéal, soupira André. Oh, celui-là ou un autre, fit Cyprien, qui, talonné aussi par l'heure, s'envola comme une grande sauterelle, rasant les devantures des boutiques le long des rues.